Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il est 22h30, bonsoir, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Soir Info, 1h30 de témoignages, de reportages et de débats. Vous connaissez le cocktail de cette émission par cœur évidemment. Ce soir, on vous a préparé un vrai beau programme, beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Et tout de suite, je vous propose l'équipe de grands témoins qui m'entourent pour ce Soir Info. J'accueille avec beaucoup de plaisir alors Alice Bouvier, avocate, soyez la bienvenue.
Bonsoir Thierry.
Je suis ravi de vous retrouver. Elliot Maman, chroniqueur politique.
Bonsoir.
Soyez bienvenue. Programme chargé pour vous, mon cher Thomas Bonnet, journaliste politique CNews. Ravi de vous retrouver. Fidèle.
Également.
Pierre Lellouch, ancien ministre et spécialiste de politique internationale. J'ai beaucoup de sujets pour vous ce soir.
Très bien.
Je vous ai prévu ça. Michel Sadoun. Bonsoir, plaisir, il y a longtemps que vous n'avez pas vu.
Plaisir.
Ça me fait plaisir de vous retrouver.
J'ai pris un peu le soleil, mais j'ai entendu dire que les audiences baissaient en mon absence. Donc je
ça commence. Y aller. Soyez bienvenue en tous les cas. Et merci, j'accueille beaucoup, avec beaucoup de plaisir, évidemment, Reda Bellage, porte-parole Île-de-France Unité SGP. Bonsoir. J'ai évidemment, Reda, beaucoup de sujets pour vous. On va commencer notre émission, si vous le voulez bien, par évoquer la polémique autour de Sciences Po. On en a déjà beaucoup parlé hier soir à Sciences Po Paris, bien sûr. Pour rappel, c'est une étudiante qui s'était vue interdire l'entrée de l'amphi car elle était juive. Gabriel Attal s'était rendu sur place. Visite dénoncée par les doyens et chercheurs qui parlent, attention, ils parlent d'ingérence. Explication coetarca et on ouvre le débat juste après.
Ils déplorent une visite inopinée du Premier ministre. Les patrons des enseignants et chercheurs de Sciences Po Paris mettent en garde contre toute ingérence et récupération politique.
Rappelons que la liberté académique garantit le droit d'enseigner et de mener des recherches en toute indépendance, sans ingérence de quelque autorité extérieure que ce soit, y compris l'État.
Un message ferme, avec pour objectif la défense de la liberté universitaire.
Les allusions à une éventuelle reprise en main de notre établissement lors du conseil d'administration du 13 mars contreviennent ostensiblement à ce principe cardinal.
Depuis le 12 mars, c'est l'occupation d'un amphithéâtre par environ 300 militants pro-palestiniens. Sciences Po est plongée dans la tourmente. Selon la direction, une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France a été empêchée d'accéder à l'amphithéâtre. L'association dénonce des propos antisémites.
À l'heure où cet événement fait l'objet de désinformation et de récupération politique, il est indispensable de laisser les instances compétentes mener à bien cette mission sans ingérence extérieure.
Une enquête administrative interne est en cours, ainsi qu'un signalement au procureur de la République.
Allez, interroge oral avec vous, Laure Alice Bouvier. Il était dans son rôle, Gabriel Attal.
Oui, il était dans son rôle. Et puis surtout, moi, ce qui me choque, mais profondément, c'est à quel moment on organise un meeting de ce type-là dans le contexte actuel. Enfin, c'est totalement irresponsable de la part de Sciences Po. Et en plus, ils osent se plaindre qu'il y a une ingérence dans la liberté de gestion de l'université. Mais il ne faut quand même pas oublier que le Code de l'éducation prévoit qu'un administrateur provisoire peut être mis en place s'il y a de graves difficultés justement dans la gestion de ces universités.
Pierre Rouge.
Écoutez, moi, c'est mon ancienne école, donc j'y suis très attaché.
Mais oui.
Je ne la reconnais plus. Je trouve ça scandaleux. Ces gens sont des minables. Les dirigeants actuels de Sciences Po, je pèse mes mots, ce sont des minables qui ont profondément changé l'école. Alors, c'est plus la même école. Hein. C'est une pompe à fric.
Vous êtes dur, là.
Ah oui, non, mais je trouve ça, le niveau a énormément baissé. Ils se sont américanisés, ils ont pris le pire de ce qu'il y a aux États-Unis sans maintenir le niveau de l'équipe enseignante, ni même des étudiants qui rentrent. C'est n'importe quoi. C'est une maison qui a énormément changé, qui a eu des crises de gouvernance constantes depuis un certain nombre d'années, qui continue à toucher une grosse partie de son budget de l'État et qui ensuite dit on fait ce qu'on veut, on est libre, on fait ce qu'on veut. Ben non, on ne fait pas ce qu'on veut. C'était une école d'excellence qui préparait l'élite en France, est devenue une grosse usine à faire rentrer de l'argent de l'étranger,
ouais, vous retrouvez plus
d'Angleterre, des États-Unis, une moitié des étudiants sont étrangers, il n'y a plus aucune espèce de cohérence dans tout ça. C'est la pompe à fric et c'est on joue l'international, mais le mauvais international, c'est même pas une école d'élite. Cela dit,
c'est terrible ce que vous dites là.
Mais non, mais écoutez, là, je vais vous dire, je vais faire un secret. Un secret. Ici, il n'y a pas beaucoup de secrets.
Ah, j'ai eu la chance dans ma vie d'être étudiant,
d'être étudiant en fac de droit à Sciences Po et à Harvard. Je ne reconnais plus les deux écoles. À Harvard, la direction a dû sauter pour les mêmes raisons, d'ailleurs. À cause du wokisme, du racisme ouvert, de bêtises sans nom. Et là aussi, la direction s'est réfugiée derrière l'indépendance avec des mots absolument abscons que personne ne comprenait. Elle a été ramassée, l'ancienne directrice qui était d'ailleurs là, parce qu'elle représentait une minorité haïtienne, etc. Elle n'avait jamais rien écrit, elle avait été mise là uniquement pour des raisons wokistes, etc. Elle a sauté. À Sciences Po, ils sautent tout seuls, les uns après les autres. Et maintenant, ils nous disent que l'État n'a... Mais l'État doit reprendre en main. Mmh. Et Attal a eu raison d'y aller. Il faut que cette école redevienne
un peu son
une
rôle.
École.
Bah
oui,
un peu son
il
rôle,
a raison, non. Mais
Michael
problème...
Sadoun et ensuite... Et Elliot Maman, je remarque que tout le monde lève la main. Donc,
oui,
je ne sais pas si c'est parce qu'on aborde un problème...
Écoutez, moi, c'est pour une raison très simple. C'est que c'est un établissement que je connais bien, puisque en 2018, j'y étais encore élève. Et j'y étais notamment au moment...
Et déjà,
de la...
ça, vous trouviez
oui, bien
que...
Sûr, je reconnais,
vous retrouvez
en fait...
dans les propos de... Ben,
il dit qu'il ne reconnaît pas cette école. Moi, je dis que je la reconnais, ce qui me fait penser qu'elle a dû changer entre lui et moi, quelque part. J'étais dans l'école d'affaires publiques, qui est d'une très bonne tenue et d'un très bon niveau, avec des professeurs éminents et des élèves qui se tiennent plutôt bien. Mais il y a différents départements dans Sciences Po, et notamment des départements de ressources humaines, qui, eux, sont beaucoup plus difficilement canalisables. Je me souviens que j'y étais en 2018, au moment de la réforme de la sélection à l'université et de la loi OR. Sciences Po avait été bloqué par un contingent d'étudiants qui venaient de Sciences Po, mais aussi d'ailleurs, c'était une toute petite minorité. Il y avait même eu un sondage à l'intérieur de l'école qui montrait que la majorité était pour débloquer l'école. Donc vous voyez que ce n'est pas une majorité des étudiants. Mais il y avait quand même 30 ou 40 élèves qui ont bloqué l'université, qui ont enlevé le drapeau français et le drapeau européen pour le remplacer par...
Et ça, c'était en 2018.
C'était en 2018. Par un drapeau anarchiste et un drapeau, évidemment, palestinien. Ce qui a un rapport total et complet avec la sélection à l'université, vous le remarquerez. Donc, c'est un emblème politique pour eux, on le sait. Au-delà du conflit territorial et de l'actualité brûlante, c'est un emblème du gauchisme, ce drapeau, on le sait. Et je remarque quand même que la situation a dégénéré pendant des années sans que personne n'ait rien à dire, parce que c'est quand même pas le premier fait qu'il y a eu à Sciences Po. Il y a eu des conférences qui étaient bloquées, des cours qui étaient empêchés. Mathias Vichra, l'ancien président qui niait la présence du wokisme à Sciences Po, je remarque que c'est toujours en certaines circonstances que des responsables politiques, dans un moment où ça devient totalement incontestable, finissent par avoir enfin une réaction. Tant mieux, Gabriel.
Et Attal, vous verrez, puisqu'on parle de Sciences Po, on ira à Aix-Marseille également. Vous verrez ce qui se passe à Aix-Marseille. Très rapidement, Elliot Maman, parce qu'ensuite, évidemment, il y a eu débat à l'Assemblée. Je donne la parole à Elliot Maman de façon à ce que tout le monde fasse un petit tour de table, ma chère Laure Alissa.
J'avais un point à rajouter.
Oui.
Très rapide.
Bon, alors rapide.
Oui, j'espère simplement que le juge administratif aussi sera certainement saisi de ces questions-là. J'espère qu'il ne va pas aller dans le sens, effectivement, du wokisme de Sciences Po et qu'il réétablira ce qu'il faut.
Elliot.
Non, mais simplement, dans l'idéal, on peut être tout à fait d'accord avec le corps professoral qui considère que le Premier ministre n'a pas nécessairement lieu de donner des leçons sur ce qui se passe à Sciences Po. Mais ce que l'on remarque, c'est que des étudiants...
Il parle d'ingérence, mais soit on dit, c'est ce que dit Pierre ou ce que dit Mickaël, il est quand même dans son rôle de ministre de déplacé.
Ah bah, alors, pas nécessairement, simplement, en l'occurrence,
un peu, il y a eu un problème.
Que des étudiants ont pris un amphithéâtre comme un lieu de manifestation politique et que la même communauté professionnelle, la communauté enseignante n'a pas été en mesure de les recadrer. C'est-à-dire que dans un univers normal, si le wokisme ne dominait pas parmi les étudiants et les enseignants de Sciences Po, c'était aux enseignants d'assumer leur rapport de verticalité par rapport aux étudiants qui leur faisaient
confiance. C'est pour ça que j'ai dit que c'était déminable. C'était à eux de faire la police et d'éviter ce genre de jeu. Comment imaginez-vous qu'en France, on puisse interdire à quelqu'un d'entrer en raison de sa religion?
Absolument.
Où on est là?
Comment peut-on imaginer que les enseignants de Sciences Po n'aient pas considéré qu'il était temps de sérieusement réagir? Et simplement pour filer la métaphore, la comparaison avec Harvard que vous avez initiée, ce qui m'inquiète, c'est qu'à Harvard, si Claude Inge, l'ancienne présidente, a dû démissionner, ce n'est pas en raison des polémiques sur le wokisme, c'est parce qu'on l'a accusé de plagiat.
Ce qu'elle avait fait aussi.
Absolument. Mais cela montre qu'aux yeux des professeurs et des donateurs de Harvard, la crédibilité de l'institution a été mise en cause à partir du moment moment où l'on avait prouvé que cette dame avait oublié des guillemets et non à partir du moment où elle avait tenu des propos qui étaient de manière avérée antisémites.
Allez, on avance.
Le même climat de domination.
Il y a une différence. Thomas Bonnet. Avec les États-Unis, il faut se réjouir des propos qu'a tenus Gabriel Attal cet après-midi, parce que là où justement aux États-Unis, il y a une crainte de la part de l'administration de Joe Biden de s'attaquer à ces problèmes dans les universités. En France, visiblement, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a décidé de s'attaquer à la situation, que ce soit à Sciences Po, mais aussi ailleurs. Dans les propos du Premier ministre cet après-midi dans l'hémicycle étaient à ce niveau-là très clairs, et je crois très salutaires, parce que ça fait longtemps que ce problème est pointé du doigt, et à chaque fois, les gouvernements n'était pas vraiment décidé à s'y attaquer.
Non, alors justement, on avance un petit peu, mais vous allez pouvoir réagir, Pierre, puisque vous parliez de l'Assemblée, et je vous soumets un petit échange entre Julien Odoul, député RN, et Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur. Écoutez, et je suis sûr que ça va susciter quelques réactions autour de ce plateau.
Le 12 mars dernier, un nouveau cap a été franchi avec l'occupation d'un amphithéâtre rebaptisé Gaza par une soixantaine de militants fanatisés scandant leur haine d'Israël. Les étudiants juifs ont peur de cette montée de haine. Ils craignent aussi vos ambiguïtés et vos lâchetés. Êtes-vous prêt à rompre vos liens avec le Qatar, devenu le banquier de votre gouvernement, qui finance, soutient et héberge les terroristes islamistes et antisémites du Hamas ?
L'antisémitisme, et ceci, quels que soient ses masques, est un fléau. C'est notre ligne claire, c'est la tolérance zéro. L'université fait effectivement partie intégrante de la société. Elle partage ses forces et ses lumières, mais elle doit aussi affronter ses tensions et ses maux les plus sombres. Mais je voudrais venir, monsieur le député, ne comptez pas sur moi pour participer au blanchiment du parti des héritiers de Pétain. Ne comptez pas sur moi pour participer à celui du parti des Gudards et des identitaires. Pas plus, d'ailleurs, que je ne fermerai les yeux sur les agissements des groupes communautaristes qui défient la République et ses principes.
Alors, Pierre Lelouch ?
Je la trouve vraiment pas bonne. Hein. Elle n'est vraiment pas au niveau, hein, la pauvre. Vraiment pas au niveau. Heureusement
quand elle parle de blanchiment du parti des héritiers de Pétain, le débat est peut-être ailleurs. Après, c'est règlement de compte à Okegora entre les deux. Hein,
réponse est nulle, mais elle a évité de répondre sur le Qatar parce que c'est très compliqué. Voilà. Le Qatar a un rôle très important dans le système, en France aussi. Beaucoup d'argent.
Donc
elle attaque sur l'argent du Front National.
Elle a une certaine idéologie.
Mais je préfère une fausse action qu'une vraie inaction du gouvernement, en l'occurrence. Ouais. Parce que, désolé, ils sont sans cesse accusés, le Rassemblement National, de faire un blanchiment de façade ou ce qu'on voudra sur le sujet de l'antisémitisme, etc. En attendant, ils ont depuis un certain temps des prises de parole qui sont plutôt irréprochables sur ce sujet-là. Donc considérer encore que la priorité de l'antisémitisme en France vient de Julien Odoul, qui pose ce genre de questions à l'Assemblée Nationale,
c'est le problème, c'est que je pense que le débat, sincèrement, il est ailleurs.
Oui,
il n'est pas dans ce sujet.
C'est non seulement passé à côté de l'analyse, mais en plus, c'est du coup mal ciblé l'action. Et on voit que, franchement, sur ce sujet-là, désolé de vous dire que malgré ce que dit Emmanuel Macron hier à l'Élysée devant le CRIF, le gouvernement n'a pas été actif, n'a pas été très actif en matière d'antisémitisme. Gérald Darmanin a eu des positions que je trouve assez irréprochables. Pour le reste, désolé de vous dire que ça n'a pas été, franchement, très brillant. D'autant plus que le nouvel antisémitisme, on le sait, il vient de l'immigration. Est-ce que le gouvernement a une action sur ça ? La réponse est non.
Un mot rapide.
Oui, il est surtout insupportable.
Parce que je vais vous amener avec ça ensuite.
De constater que le Rassemblement National est toujours irrémédiablement renvoyé à l'extrême droite par le gouvernement. Madame Retailleau cible d'éventuels Gudards et identitaires qui s'y prêtent encore au RN. Pour les Gudards, ils ont été écartés du parti il y a une dizaine d'années lorsque Marine Le Pen a pris la présidence de la formation politique. S'agissant des identitaires, les rares qui restaient encore sont partis chez Reconquête. Donc c'est totalement faux. D'un point de vue idéologique, c'est totalement inopérant.
C'est pas faux. Mais c'est pas donner un blanc-seing. Attention.
Non,
dans les structures de financement ou dans les structures locales du Rassemblement National, personne n'en sait rien.
Il faut préciser que Sylvie Retailleau est dans un logiciel politique lorsqu'elle fait cette réponse. Je vous rappelle que c'est la même ministre qui avait remis sa démission au président de la République lorsque le texte immigration avait été adopté à l'Assemblée nationale. Ça vous dit la couleur politique aussi de cette ministre de l'Enseignement
supérieur. Oui, mais c'est stupide.
Attention, je pars. Retenez-moi. Mais je pars. Retenez-moi, je vais partir.
C'est caricatural, en effet, de renvoyer sans arrêt le Front National à Pétain, je ne sais quoi,
oui, c'est,
sur à peu près tous les sujets.
Le débat n'est pas là, en plus.
Personne n'y croit.
Alors qu'il y a un vrai sujet avec l'antisémitisme en France,
ouais.
Un vrai grave sujet, dont les racines sont différentes, et ce que disait O'Doul sur l'argent qui a financé en France le mouvement salafiste, provenant d'un certain nombre de pays du Golfe, malheureusement, n'est pas faux.
Allez, on enchaîne justement après Sciences Po, Paris-Pierre. Regardez ce qui se passe à Aix-Marseille où des tracts pro-palestiniens ont été distribués à l'université. Le prospectus, on va les voir à l'écran, ben vous les voyez. Intitulé « Stop au génocide à Gaza » annonce une série de conférences en solidarité avec la Palestine. Et l'une d'entre elles remet carrément en cause le caractère terroriste des attaques du 7 octobre. Regardez, conférence Palestine, terrorisme ou résistance, analyse du 7 octobre. Il y a une vraie mise en cause là.
Mais si vous voulez, ça,
et une véritable interrogation.
C'est une question que nos experts, nos politiques refusent de regarder en face.
Et ça, c'est la réalité, là.
Oui.
Imaginez. Mais,
si vous voulez, c'est normal. En même temps, ce qui est en train de se passer, c'est que notre pays a beaucoup changé depuis 40 ans. Avec l'immigration de peuplement venue essentiellement du Maghreb, d'Afrique noire et du Sahel, musulmans. Donc il y a une grosse minorité musulmane en France qui commence à être très très importante, on parle de plusieurs millions de personnes, et il n'est pas anormal que cette minorité, qui est en ce moment en train de fêter le Ramadan, soit très concernée par ce qui se passe en Palestine. Et ce qui se passe en Palestine est grave. Donc qu'il y ait une sensibilité là-dessus, personne ne peut en douter. Le problème, c'est que ça commence à avoir des conséquences politiques,
des conférences là, ouais, affichées.
Politiques et diplomatiques. Ça pèse sur les choix politiques de notre pays et sur la diplomatie de notre pays. Il faut faire attention à ça, parce que quand on voit les universités qui commencent à être envahies de ce genre de slogans, on passe à autre chose. Et bien entendu que ça pèse aussi sur un certain nombre de communes dans le pays, sur... les élections, sur les choix diplomatiques. Et donc il va falloir que nous regardions ce problème en face, les responsables politiques, et qu'on soit capable de parler aux gens et d'éviter à ce qu'il y ait une espèce d'allégeance multiple, si j'ose dire.
Deux mots rapides et ensuite je vous amène à la Courneuve et j'écouterai avec beaucoup d'attention Reda Bellage évidemment sur ce qui se passe à la Courneuve.
Oui, Thierry, je rejoins particulièrement ce que dit Monsieur Lelouch, c'est-à-dire que le fait que ça se passe aussi dans des universités, ça légitime aussi d'une certaine façon ce qui apparaît comme un combat. Effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est très grave ce qui se passe à Gaza. Et c'est vrai, il ne faut pas le nier. Simplement, on est en train, en ne prenant pas de mesures, d'installer une société qui est en train de se gangréner petit à petit et pour laquelle il faut prendre quand même des mesures fortes. Parce que si jamais on laisse s'installer un tel chaos dans notre pays, on va remettre en cause, encore une fois, toutes nos institutions.
Mais là, une vraie mise en doute. De ce qui s'est passé le 7 octobre.
Oui.
Le terrorisme,
ou
résistance, quoi. Je ne sais pas.
Il y a des pays entiers, comme l'Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud traîne Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide, c'est le monde à l'envers. Le pays qui est né d'un génocide incontestable devient lui-même accusé de génocide, ce qui montre quel point...
Ouais, enfin, ce qui est inquiétant, c'est quand même des gens qui sont en France. Et moi, je pense sincèrement que ceux qui ont un jugement favorable au Hamas en France, n'ont rien à faire en France en réalité, parce que c'est pas seulement être anti-Israël, c'est être anti en fait toutes les valeurs qui constituent l'Occident. Donc je ne sais pas ce que ces gens-là font encore en France.
Et si que le conflit s'installe en France également, c'est-à-dire qu'on ramène le conflit en France aussi.
Exactement. Si vous regardez bien le tract, vous parliez d'une orientation religieuse, sur le tract on voit surtout une orientation politique. Si vous regardez bien à l'image... Si vous regardez en bas, le symbole est celui des communistes.
Ça s'adresse.
Et j'ai oublié de préciser, c'était des jeunes communistes.
J'ai oublié de préciser une question importante aussi. Pas forcément musulmans pour reprendre les propos de
Pierre. Allez, les amis, Reda Bellage est avec nous.
Si bien le PC que la France Insoumise vont draguer les voix dans les banlieues. Ils cherchent cet électorat-là. Ils ne vont pas le chercher dans le 16e.
Reda Bellage est avec nous. Je voulais qu'on revienne sur cette attaque du commissariat de la Courneuve, attaque qui est intervenue, vous le savez, après la mort à Aubervilliers d'un jeune homme tué lors d'une course-poursuite avec la police. Comme toujours, eh bien, évidemment, il y a polémique. Notamment, encore une fois, sur les bancs de l'Assemblée, ça ne va pas vous surprendre. À la manœuvre, La France insoumise, ça ne va pas vous surprendre, la surprise. J'ai carrément fait la liaison, moi. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Ça doit pouvoir s'expliquer. Oui, il y a quelque chose. Si vous êtes en difficulté, un jour, je serai là. Écoutez l'intervention de Sébastien Pelogui. C'est pas bien, ça, ce que vous avez. Député de la NUPES des Bouches-du-Rhône, avec la réponse de Marie Guévenoux, ministre déléguée des Outre-mer, là aussi, ça promet, et je suis sûr que ça va susciter un certain nombre de réactions, à commencer par Reda Bellage.
La peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Monsieur le Premier ministre, notre peuple a besoin que chaque citoyen soit traité de façon identique pour trouver le chemin de la fraternité. Notre jeunesse a le droit à la dignité pour embrasser la promesse de l'égalité. Notre République a besoin de la justice pour retrouver la paix. Nous réclamons la justice pour Naël. Nous réclamons la justice pour Wanis et pour tous les autres. Allez-vous appliquer les principes fondateurs de notre République à tous ces enfants ou souhaitez-vous être le marchepied du fascisme qui grandit et qui menace l'unité du peuple dans notre pays?
Vous dépeignez une société, une république qui n'est pas la nôtre. Vous dépeignez une société, une république fantasmée. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous faites ça. Je veux rappeler que les refus d'obtempérer mettent en péril la vie des délinquants, la vie parfois des passants et la vie aussi des policiers. Monsieur le député, vous n'avez pas un mot pour eux. Six policiers et gendarmes sont décédés des suites d'un refus d'obtempérer sur ces quatre dernières années. Le nombre de policiers et de gendarmes en mission qui sont blessés ne cesse d'augmenter. Alors, face à ce fléau, l'arsenal législatif a été renforcé par ce gouvernement. Les policiers et gendarmes sont formés et les courses-poursuites ne sont engagées que dans des conditions extrêmement strictes. Monsieur le député, ne dépeignez pas une réalité qui n'existe pas.
Bon, Reda Bellage, je vous attends au tournant, évidemment, lorsque vous entendez les propos de Sébastien Delogu. Là, la raison, la ministre, évidemment, pas un mot pour les policiers. Et c'est vrai que ça vient jamais du côté de la NUPES. Hein.
Oui, écoutez, j'ai un peu...
En fait, il n'y a pas de surprise pour vous.
J'ai très mal à ma France quand j'entends ces mots-là. Parce que moi, je suis issu de l'immigration. Quand je suis rentré dans la police, il n'y avait pas beaucoup de gens de mon origine. Et... On s'est en quelque sorte battu, il faut dire les mots, parce que la police n'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de Maghrébins, d'Africains dans la police. Et vous avez l'impression que, en fait, votre combat, au bout de 25 ans, il est perdu, tout simplement. Parce que vous avez des élus républicains qui ont été des gens à qui on a fait confiance, des gens à qui le peuple a fait confiance, qui, j'ai entendu... pour moi, c'est des accusations graves. J'ai entendu le mot fasciste.
C'est pas la première.
Fasciste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui sont censés combattre la stigmatisation, ils stigmatisent tous les policiers de France, tous les gendarmes de France, et sans distinction, et devant des ministres, moi je comprends pas, je suis pas avocat, je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Pour moi, ils ont pas le droit, mais bon, c'est incompréhensible, et je trouve ça vraiment dommage, et j'espère que les choses vont bouger, parce que avoir des élus comme ça qui tiennent des propos comme ça et qui attisent la haine contre la police et qui creusent encore un écart entre les jeunes qui sont pas délinquants et puis oui, peut-être qu'ils veulent aller chercher l'électorat des délinquants, hein. Je fais pas de politique, moi j'aime pas en faire, mais je sais pas, à part aller chercher l'électorat des délinquants, je comprends pas. C'est deux affaires qui ont pas été jugées. Je sais pas si vous imaginez, hein, c'est deux affaires qui n'ont pas été jugées, dont une où le collègue, sur l'affaire Naël, moi je l'assume, il a estimé être en légitime défense, donc présomption d'innocence, il a été en détention provisoire, plusieurs mois, et sur la seconde affaire, il y a eu un communiqué du parquet, donc c'est l'action publique, qui vous dit que, au vu des images, pour l'instant, il semble que ce soit un accident, Tout le monde a vu autour de cette table les images. Excusez-moi, un véhicule qui roule à plus de 90 km/h, un motoscooter qui tourne à 90 km/h la nuit sur une 4 voies quasiment, qui arrive à cette vitesse-là, le collègue, il allait voir que c'était le gars, il allait le bloquer, le percuter. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment arrêter.
Alors Alice, je vous donne la parole juste après, mais je voudrais qu'on écoute Manuel Bompard de la France Insoumise également, qui s'est exprimé sur ce refus d'obtempérer. Et on poursuit le débat, évidemment, ensemble.
J'ai dit, si vous voulez faire en sorte qu'on améliore le rapport entre la police et la population, il faut traiter les problèmes. Et c'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent suite à un refus d'obtempérer. Je suis scandalisé par les propos du préfet de police. Le préfet de police qui dit, oui c'est vrai, les attaques contre ce commissariat font suite à la mort de ce jeune homme à Aubervilliers, mais quand même c'était un refus d'obtempérer. Mais un refus d'obtempérer, ce n'est pas passible de la peine de mort en France. Donc je réponds franchement, non, nous ne légitimons pas la violence. Par contre, nous souhaitons que les conditions de la vérité, de la justice soient réunies, parce que c'est le chemin qui permettra que la situation ne s'envenime pas, tout simplement.
Je suis un homme qui aime l'ordre social, l'ordre républicain. Je n'imagine pas une société, si ce n'est le Far West, où il n'y a pas de police. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas anti-flic, mais j'aimerais pouvoir exprimer une pensée qui dit en même temps... Je considère souvent par rapport aux conditions de travail des policiers, par rapport à une culture actuellement policière que je trouve un peu brutale dans son rapport aux populations, que notre jeunesse a le droit de considérer, et notre population d'ailleurs, que 17 morts depuis 2022 à l'occasion de contrôle de police, c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est inacceptable. Et souvent les vidéos de ces arrestations à la terme duquel il y a un décès nous montrent que la façon dont la police a travaillé n'est pas satisfaisante.
Alors on vous a collé les deux réactions parce qu'elles sont importantes. On voit qu'Alexis Corbière essaie de nuancer, mais quand même, il utilise le terme culture policière brutale.
Moi, je vais vous dire une chose. La police n'a jamais été autant surveillée. On a mis en place, chose qui n'existait pas il y a 20 ans, la passerelle IGPN pour faire les signalements en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux prendre mon portable et signaler toute erreur ou ce qu'on peut estimer comme ce qu'ils appellent, eux, des violences policières. Avec son téléphone portable. On a mis en place le RIO, on a mis en place les caméras. On ne va pas compter toutes les caméras qu'il y a dans toutes les rues de France. Et puis en même temps, on est filmé continuellement. Donc, et je vais vous dire une chose. Nous, les syndicats de police, chaque semaine, on siège dans des conseils de discipline. On révoque des collègues. On vote pour la révocation des collègues. Donc, quand c'est jugé administrativement et quand c'est jugé judiciairement parlant et qu'il y a une erreur, les gens sont condamnés. Mais aujourd'hui, on juge parce qu'on est au milieu de l'échiquier politique, on utilise la police, même quand l'affaire elle est carrée, parce que je suis désolé, pour l'instant, sur les images qu'on a vues de la semaine dernière, sur le refus d'obtempérer, l'affaire est carrée. Même quand l'affaire est carrée, ils vont aller quand même envenimer les choses.
C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Ils parlent de culture. C'est bien ancré dans leur ADN. Laura Alice.
Oui, et alors je suis absolument... moi, je suis scandalisée par ce que j'entends là. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que LFI se substitue au juge. C'est au juge de déterminer s'il y a un refus d'obtempérer ou pas. Donc, ce n'est pas à LFI d'aller dire « Ah ben oui, la police tue ». Donc, alors déjà, c'est un premier problème à ce niveau-là. Le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure parle d'incitation à la haine. C'est lui qui fait une incitation à la haine, clairement. Il parle de culture policière et il parle de la police de manière générale. Il oublie aussi que les policiers, ce sont des personnes qui sont des humains, qui font un travail qui est très difficile, qui ont des familles également auxquelles il faut penser et qui sont effectivement également en danger. Et il y a un mot également qui avait été utilisé par M. Delogu dans son allocution, mais je ne crois pas qu'on l'ait entendu tout à l'heure. Il avait parlé de jeunes racisés. Alors, j'aimerais bien qu'on sache qu'est-ce qu'il entend par jeunes racisés. Si c'est pas encore une fois une incitation à la haine et même un dédoublement du débat, je sais pas ce que c'est.
Pierre Lelouch.
Moi, je constate que de plus en plus, ce parti politique, LFI, est en train de sortir du jeu républicain normal. On peut pas se permettre d'aller devant les caméras et de dire que un refus d'obtempérer, d'abord, c'est pas grave, et que deuxièmement, c'est puni de peine de mort à cause de la police. Donc de mettre en accusation une des institutions fondamentales sur lesquelles tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait une sécurité publique et une justice, sinon il ne peut pas y avoir de société. On ne peut pas aller travailler, on ne peut pas s'occuper de ses enfants. La société, elle doit fonctionner sur un certain nombre de règles. Et quelqu'un qui est élu député doit avoir conscience qu'il est lui-même redevable des institutions. Donc quand vous avez une formation politique qui utilise la race d'ailleurs pour séparer les jeunes racisés des autres. Et deuxièmement, qui prend la police comme étant responsable, coupable, par avance, de meurtre contre la jeunesse française, on est dans quelque chose. On a beaucoup dit très longtemps que l'extrême droite n'avait rien à voir dans l'arc républicain. Mais là, on a un discours qui est complètement anti-républicain et qui est une forme de terrorisme, en réalité de fascisme. Faut utiliser, c'est une forme. Le fascisme, c'est quoi? C'est une violence.
Fascisme, certainement.
Qui est basée sur la peur, la crainte, la violence, l'absence de droit. On arrête quelqu'un, on le fout au trou. Mmh. Mais ces gens-là, à voir comment ils se comportent et ce qu'ils racontent au pays, aux jeunes, qu'ils draguent, parce que c'est ces voix-là.
Bien sûr.
Naturellement. En mettant en cause
la police
de notre pays, c'est la justice, c'est quelque chose de profondément dérangeant. Et je dis, ils sortent eux-mêmes de l'arc républicain.
Ce qui est terrible, c'est qu'ils jettent l'opprobre sur votre corporation.
Oui, c'est complètement. Ça qui est puis, j'ai envie de vous
quand
dire.
Quand on voit votre quotidien.
Ils critiquent souvent, ils veulent qu'on lutte contre le trafic de stupes. Aujourd'hui, vous avez un nouveau. Enfin, c'est pas un nouveau phénomène. Ça veut dire ça fait à peu près 3-4 ans, ce qu'on appelle les call centers. C'est-à-dire que les individus, ils commandent directement dans les réseaux sociaux leur quantité de stupes. Et le gars, il livre avec un T-Max, donc un maxi scooter qui roule très vite. Donc moi, j'ai une question pour ces gens-là. Le gars, on sait qu'il est chargé de, je sais pas, il a un demi kilo, enfin, on va aller 200 grammes de cocaïne sur lui, et qui donc il refuse d'obtempérer. Donc, si on supprime le refus d'obtempérer, on le laisse, comme l'a dit Monsieur l'ancien ministre, on le laisse opérer, c'est-à-dire qu'on le laisse partir. S'il a un défaut d'assurance, s'il a un défaut de permis et qu'il renverse une dame qui a rien demandé avec sa poussette, on le poursuit pas du coup. On prend sa plaque. 90% des gars, ils ont soit des véhicules. Je parle de ceux qui commettent des délits de droit commun, c'est plus grave. Ils ont des véhicules faussement immatriculés, parce que j'ai entendu des choses. Prenez la plaque et puis vous convoquez le gars. Non, mais on vit pas dans le même monde, en fait. Dans les quartiers, les mecs, ils montent au braquage. 2 heures après, bonjour, je viens pour déposer plainte. Enfin, le gars de quartier, je dis, on m'a volé ma voiture. Non, mais ils vivent dans un autre monde.
Allez, il est 23h. Elliot, soyez rassuré, je vous donnerai la parole, parce qu'on prendra la direction de Marseille juste après, puisqu'Emmanuel Macron a déambulé durant 3 heures avec ses ministres qu'on n'a pas beaucoup entendu. Hein. C'était,
c'est normal. Ils étaient là pour faire
et on parlera poids. Justement du...
un petit poids, les ministres, dans des
cas. Eh oui, mais quand même. Hein, ils étaient là, ils étaient à côté.
Ça fait partie du job.
Allez, ça fait partie du job. Il est 23h, je tiens mon engagement. Elle est là, et nous sommes à l'heure. Maureen Vidal, on fait un tour de l'info.
Trois personnes mises en examen et incarcérées dans l'enquête sur la cyberattaque contre France Travail, anciennement Pôle emploi. Un hacking qui avait entraîné un risque de divulgation de données personnelles touchant potentiellement 43 millions de personnes entre le 6 février et le 5 mars. Le parquet avait requis leur placement en détention provisoire. Pas de parade sur la Seine le 26 juillet pour les athlètes russes et biélorusses. Le comité international olympique a tranché ce lundi en s'alignant sur la décision du comité paralympique. Selon l'organisme, les sportifs venant des deux pays impliqués dans le conflit en Ukraine pourront vivre l'événement sans y participer. De même, les médailles obtenues par ces athlètes sous bannière neutre ne seront pas comptabilisées dans le tableau des médailles. Enfin, Sylvain Augier est décédé ce week-end à l'âge de 68 ans suite à un malaise connu du grand public grâce à Faut pas rêver qu'il a présenté de 90 à 99 sur France 3, puis La carte au trésor de 1996 à 2005. L'animateur s'est éteint à son domicile dans le Gard. Il était atteint de bipolarité qui l'avait mené à la dépression.
Merci beaucoup ma chère Maureen et on vous retrouve dans 30 minutes. Merci de nous accueillir. C'est Soir Info jusqu'à quasiment minuit. Avec moi, Laure, Alice Bouvier, Pierre Lelouch, Mickaël Sadoun, Elliot Maman, Reda Bellage et Thomas Bonnet. On va prendre la direction de Marseille. Et oui, parce que Emmanuel Macron a fait une petite visite, une petite déambulation surprise.
Inopiné pour le.
Inopiné, c'est le terme. Inopiné, accompagné, je le disais, mon cher Pierre, de 3 ministres. Alors évidemment, il n'était pas là. On sait qu'il est supporter de l'OM. Plus que du PSG, mais il n'était pas là pour parler football. Évidemment, il était là pour lancer une vaste opération anti-drogue sans précédent. On en parlera juste après, parce que je crois qu'il était déjà allé il y a 9 mois à Marseille. On a vu ce que ça avait donné. On voit la synthèse de cette visite avec Mathilde Couillard-Flornoy, Célia Barotte et Stéphanie Rouquier. Et on ouvre le débat. J'ai hâte de vous entendre.
C'est au cœur du quartier sensible de la Castellane à Marseille qu'Emmanuel Macron est apparu aux côtés des forces de l'ordre, de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. En déambulant dans les allées, Emmanuel Macron a été interpellé par les habitants.
Ce qu'on est en train de faire, c'est une opération de lutte contre les trafiquants de drogue et tous les trafics. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent.
Des habitants qu'il faut rassurer face à cette présence policière.
Les policiers, les gendarmes, ils sont là pour rétablir l'ordre. Si tout allait bien dans un monde formidable, il n'y aurait pas de policiers et de gendarmes, on serait tous très heureux et eux pourraient se reposer, ils ne seraient pas blessés par les gens qui les attaquent. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette nuit.
Tous les gens de la Castellane, les 6 000 habitants sont
non,
des trafiquants.
Non, pas du tout.
L'opération Place Nette est lancée à Marseille avec un dispositif policier important.
Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille. Il y a déjà plus de 82 interpellations, une soixantaine de gardes à vue avec justement des personnes qui étaient visées qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise.
Cette visite surprise du chef de l'État intervient dans le cadre du plan Marseille en grand, près de 9 mois après une première visite de la cité phocéenne en juin dernier.
Alors, je le disais, alors Alice, Emmanuel Macron s'était déplacé, il était resté 3 jours, hein, je passe au gouverne, hein,
trois jours.
Et
pour l'acte 2 du plan Marseille en grand.
C'est ça. Et 2 ou 3 jours après, incident. Bon, là, on est un peu dans la com, on l'évoquait. Alors, certes, je parle sous la gouverne d'un ancien ministre, c'est le job, les ministres sont là. Mais néanmoins, on a assisté à une véritable communication d'Emmanuel Macron, là, non ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai un peu du mal à voir Emmanuel Macron qui arrive en sauveur un peu autoproclamé, qui annonce une opération de 3 semaines. 3 semaines, c'est quand même très, très court. Comment ils peuvent imaginer régler le problème en 3 semaines ? Il faudrait quand même... Le trafic de drogue, ça suppose quand même une coordination entre les régions, les départements, au niveau national. Enfin, ça suppose quand même une mise en place qui ne soit pas... Ça reste beaucoup trop court. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a le clanisme de Pierre Bourdieu. Hein, c'est-à-dire qu'on a des clans qui sont organisés aussi. Mmh. On a une situation, une structure parallèle, une économie parallèle. Il faut aussi savoir comment est-ce qu'on va financer justement cette lutte contre la drogue. Est-ce qu'on va emprunter davantage ? Est-ce qu'on va augmenter les impôts ? Est-ce qu'on va raboter ? En plus, M. Macron se permet de parler aussi de l'Ukraine. Je pense que les Français...
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, aussi, ils ont
on va rester sur le sujet essentiel pour le moment. L'Ukraine.
Et je rajouterai un dernier point, Thierry, c'est qu'au niveau juridique, je pense que vraiment, il s'agit, au-delà de mener des opérations coup de poing de 3 semaines qui, à mon sens, ne sont pas suffisantes et qui sont effectivement certainement un coup de com', refonder nos bases juridiques. Mmh. Autant le code de la justice pénale des mineurs pour les mineurs qui sont concernés, mais également les procédures qui sont beaucoup trop complexes parce qu'il suffit d'un vice de procédure et on fait sortir en fait des trafiquants de détention.
Alors, pour persister et signer, écoutez ce qu'il disait. Justement, nous sommes dans la bataille. Voilà, il y a eu des moyens pourtant.
Il y a eu des moyens
qui ont été mis à Marseille. Et on voit le résultat. Mais néanmoins, aujourd'hui, il affirme, nous sommes dans la bataille. Écoutez-le.
Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que moi, je ne saurais, pour ma part, céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. Malheureusement, de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes, comme elle est d'ailleurs difficile dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. La drogue est un fléau mondial, le narcotrafic est un fléau qui est croissant. Oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début, avec beaucoup de fermeté, et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité.
Thomas,
les propos du chef de l'État à l'instant, en fait, c'est une réponse à d'autres propos qui ont été tenus il y a quelques jours par un procureur de la République qui était auditionné au Sénat, qui disait « la bataille est perdue
ouais. ».
Et le président dit « nous sommes à la bataille ». C'est donc une réponse. Et d'ailleurs, je pense même que cette audition au Sénat a peut-être poussé le chef de l'État à se rendre à Marseille aujourd'hui comme une réponse médiatique. La réalité, malheureusement, et Laura Lys l'a bien dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'annonce concrète de la part du chef de l'État sur la réponse pénale qui est justement ce qui est pointé du doigt par ce procureur de la République. Ce même procureur de la République vous dit que les leaders des réseaux de trafiquants gèrent leurs affaires depuis leur cellule de prison et qu'en fait, le fait qu'ils soient incarcérés ne change absolument rien à leurs affaires. Sur ce point-là, personne n'a rien dit. le ministre de la Justice, question de protocole, n'a pas prononcé un mot, on aurait pu attendre de sa part des annonces. Finalement, ce qui ressort de cette opération de communication du président de la République...
Je me suis pas trop engagé en le disant.
Non, mais c'est un message qui a été
dit. Pas pris beaucoup de risques.
Si Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Sabrina Agresti-Roubache avaient fait cette visite, on aurait parlé uniquement de la sécurité à Marseille. Finalement, la présence du chef de l'État, et on y reviendra peut-être, fait qu'il a été interrogé sur un tas d'autres sujets qui sont aussi révélateurs peut-être d'un état d'esprit dans ces quartiers, mais qui ont dilué en quelque sorte le message de cette visite.
Allez, justement, on va poursuivre le débat, mais j'aimerais vous soumettre ce sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. On vous a posé un certain nombre de questions. C'est une réponse un petit peu à ce que dit Emmanuel Macron. Hein. Nous sommes à la bataille, évidemment, mais il y a quand même du boulot. Hein. D'après vous, qui fait la loi à Marseille? Regardez. Qui fait la loi à Marseille? Les narcotrafiquants? 56%. On va le voir, ça s'affiche. L'État, 13%. Ni l'un ni l'autre, 18%. Vous ne savez pas. 13%. Ça veut dire quelque chose, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, malgré les moyens... voilà. Et d'après vous, quelles sont les solutions pour lutter contre les narcotrafiquants à Marseille? Là aussi, c'est intéressant. Reda, vous réagirez. Durcir les conditions de détention dans les prisons pour empêcher les trafiquants d'agir depuis leurs cellules. On va le voir. 41%. Renforcer les effectifs de police, 35%. Donner davantage de pouvoir à la justice, ça s'affiche, 31%. Petit commentaire, Pierre, et ensuite Reda.
Moi, je voudrais dire, pour une fois, je ne vais pas être trop sévère à l'égard du président, parce que sa visite...
Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre ?
Non, mais... Sa visite montre que, en tout cas au plus haut niveau de l'État, on commence à prendre conscience que la drogue est un vrai sujet. Alors, ça fait 7 ans qu'il est à ce poste, il aurait pu se rencontrer un peu plus tôt.
J'aurais été tenté de dire qu'il est...
Voilà, l'année dernière, il y a eu presque un mort par semaine à Marseille, il était peut-être temps de s'en apercevoir aussi, mais si cette prise de conscience peut entraîner derrière une vraie politique anti-drogue, ce sera un moment important. Maintenant, après, il y a tout ce qui manque. Il y a tout ce qui manque. La drogue, c'est un problème absolument considérable, parce qu'il y a beaucoup de volets. Il y a ce qu'ont dit les procs la semaine dernière au Sénat, à savoir l'urgence d'une juridiction spécialisée sur la drogue, et pas de problème, et pas de procès avec des jurés, parce que c'est impossible. Deux, il faut, là je parle devant un policier, il faut vraiment avoir des équipes d'enquêteurs beaucoup plus musclées et beaucoup plus spécialisées. Et ça, ça manque terriblement parce que ce n'est pas les CRS devant un HLM qui vont régler le problème de la drogue dans un coin. C'est des enquêteurs qui vont trouver la chaîne d'approvisionnement. Il faut un volet international très important. Il faut contrôler l'argent et il faut ensuite, de façon très hermétique, contrôler les communications à l'intérieur des prisons. Mmh. Il est impensable qu'il rentre à peu près 50 000 téléphones portables par an dans les prisons.
Et ça, c'est la
J'étais encore débuté, on essayait encore on a créé un système de renseignement dans les prisons il y a une dizaine d'années. Donc, vous voyez, tout ça, c'est fait par petits bouts. C'est pour ça qu'on n'a pas de solution au problème de la drogue. Il faut vraiment qu'on fasse attention parce que si on continue sur cette pente, on va se retrouver dans la position de la Belgique et de la Hollande. On va devenir petit à petit un narco-État et plus personne ne contrôlera rien parce que la corruption rentrera à haut niveau. Donc il y a intérêt à bouger vite. Donc je fais crédit au président de prendre le dossier en main. J'espère que derrière, il va y avoir autre chose que de la communication. C'est là-dessus et c'est fondamental. Il faudrait qu'il y ait toute une série de mesures très rapides.
Alors, justement, pour répondre à ce que vous dites, il manque un élément de ce sondage. Hein. D'après vous, quelles sont les solutions pour lutter contre les narcotrafiquants à Marseille? Vous allez le voir, ça va s'afficher. Et vous allez réagir, évidemment, à Reda. Et je vous donne la parole aussi ensuite, hein, en partage. Mais c'est important aussi d'avoir l'avis de Reda. Mais la réponse, c'est faire intervenir l'armée à 28%. Punir plus sévèrement les consommateurs de drogue, 27%. Renforcer le tissu associatif local pour maintenir le lien avec les jeunes, 22%. Reda, et je vous donne évidemment la parole juste derrière. Reda, vous pensez quoi de ce sondage? D'après vous, qui fait la loi? 56% des narcotrafiquants. Je suppose que ça ne doit pas vous faire plaisir. D'après vous, quelles sont les solutions pour lutter contre les narcotrafiquants à Marseille? Durcir les conditions de détention? Ça, à mon avis, ça va dans le sens. Racontez-moi.
Je pense que ce genre d'opération est très intéressante. Je pense qu'il faudrait les multiplier. Je sais qu'en région parisienne, on en a une tous les jours. Enfin, je parle sur l'ensemble de l'Île-de-France, pas sur chaque département. Mais il faudrait que déjà ce soit mis en place de manière structurelle, même une fois tous les 15 jours, une fois par mois, déjà dans un premier temps. Mais parallèlement, structurellement parlant, il faudrait aussi qu'on puisse regagner du terrain en même temps. Parce que ces individus qui vont être interpellés, même s'ils prennent 6 mois, 1 an de prison, ils vont ressortir, ils vont faire exactement la même chose. Et il faut, comme on disait, c'est un peu avec le sujet qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment rapprocher la population de la police pour que ces jeunes, ces parents aussi prennent conscience que ce que font leurs enfants, c'est très très grave. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont abandonné aussi. Hein. C'est pas que la responsabilité de l'État.
Ouais. Souvent, ils en vivent.
Oui,
mais regardez, on vous a juste les chiffres également. Là, opération Placenet dans les Bouches-du-Rhône. 98 interpellations, 71 gardes à vue, 8,7 kilos de cannabis saisi, 399 de cocaïne saisie.
Ah oui, non, mais
300 000 emplois.
Marseille, c'est
300 000 emplois la drogue.
C'est marché parallèle.
C'est un marché parallèle.
Ça rentre presque dans le PIB. Donc, à un moment, il faut attraper le taureau par les cornes. Et en plus de ces opérations-là, il faut mettre en place une police de proximité. Il faut renforcer les services, comme vous l'avez dit, les services d'investigation. Il faut les rendre attractifs, ces services-là, parce que, comme vous l'avez dit aussi, maître, pour un bout de shit, il faut faire je ne sais pas combien de procès-verbaux, d'auditions, placement en garde à vue. Il faut tout nous faciliter
pour qu'on arrive à faire intervenir l'armée. Ce n'est pas le rôle de l'armée.
Non, mais on l'a vu pendant les émeutes.
Les gens réagissent comme ça parce qu'en fait, ils ne voient plus le bout de ce problème. Et que ce que j'entends de part et d'autre, et avec quoi je suis totalement d'accord, c'est que le problème du trafic de drogue, il est beaucoup plus large qu'un simple problème de maintien de l'ordre. Là, évidemment, c'est quoi cette opération Placelette ? C'est-à-dire qu'on déploie des forces de police, on met, comme on dit, du bleu sur le terrain. Ça a la vertu de rassurer au moins la population, surtout dans un contexte où les règlements de compte faisaient peser un risque sur la population, non seulement dans la rue, mais parfois chez eux. On a eu des histoires de gens qui ont été touchés par des balles chez eux pendant des règlements de compte. Donc c'est une opération, si vous voulez, de maintien de l'ordre, et puis ça rassure les gens. Mais sur le long terme, est-ce que ça a une efficacité ? Pas tellement. Les dealers de drogue savent très bien qu'il y a ce genre d'opération. Ils suspendent le trafic pendant un moment de manière physique. Ils trouvent des relais, évidemment, sur Snapchat et Telegram, on l'a dit. C'est d'une simplicité enfantine pour eux d'échapper à ça. Donc, à long terme, quelles sont les solutions ? On n'a pas arrêté de le dire. Non seulement il y a un problème, évidemment, socio-économique à Marseille, hein, une ville très pauvre avec beaucoup de chômage, etc., tout ce qu'on voudra. Toute l'économie de la drogue qui s'est mise en place avec 100 à 200 euros par jour pour un chouf qui ne gagnera pas la même chose s'il a un emploi normal, c'est un sujet aussi. Mais les deux sujets principaux, il me semble que c'est la réponse pénale. On en a parlé évidemment avec l'ouverture de nouvelles places de prison. Emmanuel Macron en avait proposé 15 000. Il n'en a ouvert que 2 000 depuis son élection en 2017. C'est pas assez. La deuxième chose, c'est évidemment le contrôle de ce qui rentre sur le territoire. Et là, je vais vous dire, c'est Manuel Bompard de la France Insoumise qui le propose. Donc je m'inspire de lui, une fois n'est pas coutume. Et j'ai trouvé que c'était aussi une proposition intéressante. Il faut prendre le problème à la racine plutôt que de traiter les symptômes superficiellement.
Je vous donne la parole, mais on continue, on avance. Un symbole de la situation qu'on décrite à Marseille et du climat ambiant, mais qui est valable à Marseille comme dans d'autres villes. Écoutez ces jeunes qu'on a interrogés. C'est ça ce qui se passe. Ça, c'est la réalité. Et ensuite, vous verrez, Emmanuel Macron a évidemment été interpellé par une mère. Mais d'abord, on va écouter ces jeunes.
Je sais pas, ils m'ont dit de venir travailler, que ça fasse gagner mes sous.
Moi, ils m'ont juste demandé de, par exemple, d'aller acheter quelque chose pour eux ou de faire. Par exemple, j'ai un guetteur qui me dit de passer à quelqu'un quelque chose. Ben, des fois, j'ai peur qu'il me fasse quelque chose si je refuse. On m'a parlé des moyens qu'ils font pour attirer les jeunes. Ma mère m'a dit que c'est dangereux. Du coup, j'essaie vraiment d'éviter au maximum. C'est les copains à mon frère. Du coup, je traîne un peu avec eux. Mais quand j'ai su qu'ils commençaient à faire ça, du coup, j'ai arrêté.
À tout moment, il y a notre collègue qui guette et une balle perdue, il meurt alors qu'il est très jeune. Ça le tire dessus ou il a des problèmes.
C'est ça la réalité, Elliot.
Oui, et d'ailleurs, la brutalité de ces témoignages est tout de même à mettre en parallèle avec le sondage que vous venez de montrer, qui nous apprend que 87% des Français estiment que ce n'est pas l'État qui fait la loi et l'ordre à Marseille. Et d'ailleurs, on voit bien que d'un point de vue politique, on traite en réalité les déplacements de l'exécutif à Marseille comme des déplacements diplomatiques. Il n'y a pas d'autre ville en France où l'on énumère le nombre de déplacements que le président de la République a fait au cours de son mandat. On sait également que c'était, je crois, la 34e visite de Gérald Darmanin sur place. Ça n'existe pas, il n'y a que Marseille où la situation est tellement spécifique, exactement, 13e pour Emmanuel Macron, 34e pour Gérald Darmanin, il n'y a que Marseille où la situation est tellement spécifique, tellement délétère que l'on se retrouve à compter le nombre de déplacements réalisés par l'exécutif. Et d'ailleurs, on
et
voit
pour
bien
quel résultat
Mais, et absolument, et on voit bien que par ailleurs sur place, il y a en effet une contre-culture avec une économie parallèle qui en réalité permet d'intégrer les gens d'un point de vue social. D'une certaine manière, la souveraineté de l'État est directement concurrencée sur place parce que il y a à l'économie, comme ces gens le rappelaient, je veux dire les personnes qui font des métiers de chouf, etc., gagnent des salaires qui sont absolument inimaginables, surtout pour des personnes qui sont simplement supposées être à l'école. Et par ailleurs, exactement, et par ailleurs, en plus de ce facteur d'intégration économique, il y a un discours culturel qu'il aurait proposé, narco-islamique, ou appelez ça comme vous voulez, qui permet en réalité de faire une forme de contre-nation en France.
Laure Ali, je vous donne la parole, mais je voulais qu'on écoute cette séquence où Emmanuel Macron est interpellé par une mère. C'est important, écoutez bien.
C'est pas de la protection, ça, monsieur le président. D'envoyer des bombes à l'école à 4h30 quand les enfants sortent de l'école primaire et qu'il y a des enfants dans tout le quartier, parce qu'il y a deux écoles, école d'en haut, école d'en bas. Donc à un moment donné, tous les enfants sont au milieu du quartier. Les CRS interviennent. Ils veulent faire du lavage, du nettoyage.
C'était quand?
Non, mais c'est souvent. Ils envoient des bombes lacrymogènes.
Mais madame,
qui est? Qui est des enfants? Qui est des personnes âgées? Qui est des mineurs?
Lui, il ne sort pas de l'école à 4h30. Hein.
Pas lui, je ne parle pas de lui.
On est d'accord.
Mais il est témoin.
On ne va pas se tirer les cartes entre nous non plus.
Il ne parle pas de lui, on a tous la même situation.
Non, mais regardez, madame.
C'est inadmissible.
Juste, on va faire des choses dans l'ordre. Un, les policiers, les gendarmes, ils sont là pour rétablir l'ordre. Si tout allait bien dans un monde formidable, il n'y aurait pas de policiers et de gendarmes, on serait tous très heureux et eux pourraient se reposer, ils ne seraient pas blessés par les gens qui les attaquent.
Donc
c'est ce qu'ils ont fait cette
nuit. Tous les gens à Castellane, les 6000 habitants sont
non, pas du tout, mais simplement il y en a
leur vie pourrie par ça. De faire.
Ça c'est mon premier point.
Désolé, moi,
deuxième point, ce que vous dites, dont j'ai pas connaissance, sortie d'école, ça le préfet de police va regarder avec vous, il va prendre vos coordonnées tout de suite pour que ça ne marche pas. Parce que ça c'est inadmissible, pas à 4h30 quand on sort de l'école, vous avez totalement raison. Mais ça n'enlève pas leur action. Il y a les jeunes là qui sont là. Donc vous allez me dire ce que vous voulez faire. Parce que lui, il ne sort pas de l'école à 4h30 puisqu'il est déscolarisé.
C'est terrible ce qu'elle dit là aussi. Hein. La police, c'est pas la protection.
Oui, c'est toujours une vision. Vous savez, quand vous vivez dans un quartier, il y a une espèce d'omerta. Vous êtes un peu en dehors de la société. Et vous vivez un peu dans Votre objectif, c'est qu'après l'école, votre gamin, il arrive en un seul morceau. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la vraie société, l'objectif, c'est que votre gamin ne devienne pas un délinquant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Si, je comprends.
Et déjà, quand on voit l'image, là, le gamin qui parle avec le président de la République, sans faire de pub, il a un iPhone 14 Pro Max. Il est accoudé comme ça. Moi, il y a 20 ans, je suis devant un président de la République. Déjà, devant mon prof, je ne ferais pas ça. Donc, vous voyez que ils n'ont pas les mêmes
codes. C'est bien le reflet de notre société aujourd'hui. Il n'y a pas de respect. Et puis, comment il l'a financé?
Non, mais c'est
ça.
Quand on voit le prix d'un iPhone.
Il parle quand même au président de la République. Je veux dire, après, je pense qu'on peut comprendre la détresse d'une mère, parce qu'on a toujours cette vision-là. Je pense qu'on a besoin de la police, mais c'est vrai que c'est pas nous qui choisissons les horaires auxquels on doit intervenir. Si on est pris à partie à 16h30 et qu'il y a des collégiens, ben on est obligé de riposter face à des délinquants. Si c'est le but, alors on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Allez, un dernier mot sur Marseille, parce qu'ensuite je vais vous amener du côté de Vénissieux. Un dernier mot.
Oui, merci Thierry. Je voudrais rebondir sur deux choses qu'a dit Monsieur le Ministre et que je trouve particulièrement juste. Déjà, si on laisse se mettre en place, si on pousse la logique jusqu'au bout, on va avoir un narco-État avec des condominiums, avec des favelas, et on ne peut pas laisser se mettre ça en place. Vous avez parlé également, Monsieur le Ministre, d'une juridiction spécialisée, et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faudrait, parce que moi, en tant qu'avocate, je fais très souvent des comparutions immédiates. Et les comparutions immédiates, ça ne permet pas de bien faire la justice. On a des audiences qui durent jusqu'à des fois 4 heures du matin. Il y a deux ans, un an ou deux, on a eu une juge, Marie Truchet, qui est décédée d'un AVC à 44 ans parce qu'elle était débordée de dossiers. Et dans ce cas-là, comment est-ce que la justice peut rendre des décisions qui soient suffisamment fortes, qui soient suffisamment entendues, si on ne lui donne pas suffisamment les moyens ?
Allez, pour terminer, on va terminer avec une communication du président de la République qui a tweeté. Oui. Je vous propose de le regarder. C'est marqué quoi ?
La fameuse scène dont vous parliez des jeunes
scène.
Accoudés au mur.
Marqué reprise. Fraternité. Voilà, c'est une communication. Je vous laisse à vous. Non, Michael ?
C'est légèrement à côté de la plaque par rapport au sujet, par rapport à la gravité des problèmes qui sont en train d'être traités. Mais bon.
Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par ça. Voilà.
Montrer qu'il est au contact.
C'est un coup de com.
Des jeunes.
C'est un coup de com raté.
Dans l'avion qui l'a ramené à Paris, il s'est livré à nos confrères du Figaro. Déjà, on apprend qu'il va retourner à Marseille. Ce sera sa 14e visite le 8 mai prochain. Et puis, il revient aussi sur le plan marseillais en grand. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous en parliez tout à l'heure. La priorité, vraisemblablement, pour le chef de l'État, c'est une réforme institutionnelle sur la métropole et la ville de Marseille. Pas sûr que ce soit à la hauteur des enjeux dont on parle depuis.
Oui, mais c'est pas inutile. Là-dessus,
pas inutile, mais on parlait
je peux vous dire que pour avoir expérimenté le système de l'intérieur, je peux vous dire que l'enchevêtrement entre la ville, la région, le département, la communauté de communes, c'est une horreur. Personne ne prend de décision et on joue au ping-pong avec les citoyens. Et c'est pas moi, c'est l'autre. Donc effectivement, un grand effort de simplification, s'il arrive à le faire, il en cause, comme toujours, mais c'est toujours pas venu. Pourquoi c'est pas venu ? Parce que tous ces élus ont des bagnoles, des secrétaires, des postes, des frais, et que si vous faites une simplification de ce type, vous allez mettre des dizaines de milliers de types au chômage. Et ça, c'est compliqué en politique.
Allez, je ne vous amène pas à Vénissieux comme prévu, mais plutôt à Paris. On va aller à Paris. Paris gangréné par le crack. J'ai l'impression qu'on ne cesse d'en parler. Ce soir, on va reparler du célèbre, vous savez, le square Forceval de la Villette. On en a beaucoup parlé ici. Il y avait des consommateurs de crack. À un moment donné, on leur a dit, vous n'êtes plus là à la demande de Gérald Darmanin. Ça, c'était en octobre 2022. Eh bien, vous savez quoi ? Ils sont de retour. Vous allez voir le reportage de Fabrice Elsner et de Tony Pitaro. Et évidemment, je vais vous faire réagir et écouter bien ce que disent les habitants et la réaction aussi de la police.
Depuis 3 semaines, les habitants de la Porte de la Villette assistent impuissants au retour en force des toxicomanes et des dealers. Agression, mendicité, insalubrité, c'est une situation qui se répète inlassablement.
Ça va, ça vient. Moi, j'évite de passer par les zones en fait, où il y a vraiment beaucoup de craquettes, où on est assez dérangé. Si je prends une route un petit peu différente, c'est pas pour rien.
Il y a des personnes qui viennent devant vous, ils vous bloquent. Il y a des autres qui viennent derrière vous, ils bloquent. Et puis, hop, vous avez des mains, ils trimballent. Là, en portefeuille, ce qui leur intéresse, c'est les poches.
Donc à partir de 17-18 heures, on sent que les drogués sont un peu plus agités et recherchent leur dose. Ça va être de la manche, ça va être des cris, des excréments humains.
Après le départ des policiers à 22 heures, les toxicomanes et les dealers prennent le pouvoir dans le quartier, empêchant les habitants de se balader sereinement. La porte-parole de l'association de riverains Villette Village tire la sonnette d'alarme.
Je vous avoue qu'on ne traîne pas forcément jusqu'à 2-3 heures du matin dans le quartier, mais j'ose pas imaginer ce que ça donne. Et on le voit de toute façon le lendemain matin, les stigmates, parce que la place est jonchée de déchets, il y a des cendres partout, on y trouve à boire et à manger.
La préfecture de police affirme avoir renforcé les effectifs présents sur place pour multiplier les contrôles et les interpellations.
Reda, c'est un peu le symbole d'un échec, puisqu'on le voit dans le reportage. À partir de 22 heures où vos collègues disparaissent, les dealers, les consommateurs reviennent. Et en 2022, on les avait fait partir. Et aujourd'hui, c'est toujours le même problème. J'ai l'impression qu'on fait toujours le même débat autour de ce problème du crack.
Oui, on a eu la problématique sur la Porte de la Chapelle, on a eu la problématique sur Stalingrad. Partout, à chaque fois qu'on est, excusez-moi le terme, on fait une place nette pour le coup, ils se mettent en place autre part, ils se mettent sur les gares. Mais les collègues interpellent, ils interpellent, on n'a pas de statistiques, mais ils interpellent des gars tous les jours sur Paris avec 40 cailloux de crack. Enfin, voilà, ça bosse dur. Le problème, c'est que c'est un peu toujours le même aussi. Ces individus, quand vous les interpellez, vous me contredirez ou pas, on ne les met pas en prison en général. Je ne demande pas ce que ce soit le cas, mais c'est une injonction thérapeutique.
Oui.
Mais après l'injonction thérapeutique, il n'y a absolument aucun suivi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement dépendants qu'en général, ils y retournent. Et puis, pour nous, c'est un fléau parce que notre but, c'est de protéger ces gens. Et la problématique, c'est qu'à un moment, quand vous voulez vous procurer ces doses, vous sombrez dans la délinquance, tout simplement.
Alors, Alice.
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs problèmes. Alors c'est vrai que les injonctions thérapeutiques, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est pas en détention qu'on les soigne. Et ensuite, les suivis sont tout à fait... ils n'existent pas. Hein. Moi, je le vois dans le cadre de mes dossiers. Il y a un autre problème aussi que je vois, c'est l'occupation du domaine public. Le juge administratif considère qu'on ne peut pas déloger en fait des personnes qui sont installées, enfin expulsées. Il faut que ça revête des critères d'utilité et d'urgence pour la dignité de la personne humaine. Donc ça pose quand même problème parce qu'il faudrait quand même arriver à déloger aussi ces personnes-là. Je pense que peut-être une solution serait de mettre en place une police de proximité. Sarkozy l'avait supprimé en 2003, mais qui permettrait de rassurer les riverains. En tout cas, il y a quelque chose véritablement à refondre, non seulement au niveau du suivi socio-judiciaire et du suivi des toxicomanes, mais qui reste très très compliqué et qui n'est pas effectué. Vraiment, je le constate moi-même dans le cadre de ma pratique, de l'occupation du domaine public, parce que les critères administratifs ne sont pas adaptés à la réalité aujourd'hui et à la réalité du monde aujourd'hui. Et le dernier point dont je vous avais parlé, je ne sais plus ce que c'était, mais Pierre. En tout cas, il était très pertinent.
C'était très bien quand même. Moi, je voulais simplement dire que l'expérience montre, et mon expérience d'élu aussi à Paris, montre que la cohabitation entre la drogue dure de ce type et les riverains est juste impossible. Et quand je dis drogue dure, c'est le crack, et derrière, ce qui va nous arriver
les autres, face, qui sont
c'est le fentanyl qui fait des ravages aux États-Unis. Alors là, il faut voir ce que ça donne dans les villes américaines, notamment sur la côte ouest. C'est 50 fois plus violent que le crack. Donc, c'est ingérable si on dit à la police de les déplacer, parce que ça ne change rien. Moi, je suis arrivé à la conclusion, elle vaut ce qu'elle vaut, ma conclusion, c'est qu'il faut construire des centres dédiés, fermés. Comment ça, on les met où? On les met dans ces centres.
Ouais. Mais on les installe où, ces centres? Parce que c'est ça, quand on installe des centres, etc.
Non, mais ça veut dire qu'il faut les mettre en dehors des villes. Exactement. Alors, ça pose des problèmes de liberté publique, de Conseil d'État, de droit.
Et on les met où, Pierre, selon vous? En dehors des villes, c'est-à-dire où?
Moi, ça veut dire à la campagne.
Et est-ce que vous pensez que le maire de la commune, vous imaginez? Je dis ça, on le voit pour certains centres, ça pose toujours problème.
Moi, je vais vous dire.
C'est toujours mieux ailleurs, mais je retiens votre idée.
Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez le faire dans Paris, vous pouvez essayer aussi de le faire dans Paris ou aux portes de la Villette si vous faites un. Mais il ne faut pas que. Les dealers continuent à approvisionner. Il ne faut pas que ces gens traînent dans la rue parce qu'en effet, ils sont violents pour les passants. C'est pas des histoires. Quand ils sont en manque, ils peuvent faire n'importe quoi. Si vous passez avec un enfant ou une personne normale à côté, vous risquez des problèmes.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter, moi je pense, de multiplier les effectifs de police. Maître Bouillet parlait tout à l'heure de recréer une police de proximité. Moi, je pense qu'il faut s'empêcher en fait de recourir à ce genre de solution parce que ça nous empêche de traiter les problèmes en amont. On est perpétuellement en train de rajouter des effectifs de police sur le terrain pour traiter les conséquences d'un problème qu'on refuse de traiter. En amont, on sait qu'il y a des problèmes, évidemment, de circulation des produits qui viennent sur le territoire, aussi beaucoup d'immigration. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé depuis qu'on est rentré sur ce plateau-là. Or, on sait que le rôle que ça a dans le trafic. Le procureur de la République de Marseille parlait notamment de l'utilisation des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés dans les réseaux de trafic de drogue. C'est un sujet énorme.
Il est 23h30.
Pour le crack, c'est des villages au Sénégal qui sont parfaitement identifiés.
Oui. Il est 23h30, les amis. C'est le moment de faire un tour de l'information parce qu'elle est à l'heure. C'est notre amie Maureen Vidal que je re-salue, Maureen.
Des manifestations aujourd'hui dans des dizaines de villes françaises. Les fonctionnaires réclament une hausse des salaires après celle de 3,5 et 1,5% consentie en 2022 et 2023. Les principaux syndicats réclament plus de considération. Selon le ministère de la fonction publique, 6,4% des 2,5 millions de fonctionnaires étaient en grève à la mi-journée. Libérons-nous des écrans, rationnons Internet. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a proposé dans une tribune du Figaro de restreindre notre temps aux écrans en limitant, par exemple, le nombre de gigaoctets à 3 par semaine. Pour elle, ceci permettrait également de limiter les comptes fake et commentaires haineux. Actuellement, un Français moyen utilise 4 gigaoctets par semaine. Enfin, Vladimir Poutine a ordonné aux services de sécurité de son pays de punir les combattants russes pro-ukrainiens. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, certains soldats mènent des attaques dans des régions frontalières de l'Ukraine. Des traîtres pour le président russe.
Merci. Maureen, 23h32, c'est la dernière ligne droite pour Soir Info, toujours avec moi. Laure Alice Bouvier, Pierre Lelouch, Mickaël Zadoun, Elliot Maman, Reda Bellage et Thomas Bonnet. Un sujet qui va vous intéresser, évidemment. Je me tourne vers Pierre Lelouch. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On va parler de l'état de l'armée française. Dans quelques instants, on sera avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée et de l'air, que je salue. Et je voudrais que l'on s'attarde ce soir sur une tribune chez nos confrères du Monde, tribune du chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tous les cas, Pierre Schill fait écho aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Je connais plus ou moins votre réponse, mon cher Pierre, et on écoutera le général Jean-Paul Paloméros. Mais d'abord, explication, Régine Delfour.
L'armée française se tient prête. C'est en tout cas ce qu'assure Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, dans une tribune dans le journal Le Monde.
Quelles que soient les évolutions de la situation internationale, les Français peuvent en être convaincus. Leurs soldats répondront présents.
Des propos qui font écho aux déclarations d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoi de troupes en Ukraine. Dans cette tribune, le général Pierre Schill affirme.
L'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs, le fait savoir et le démontre.
Concrètement, la France a la capacité d'engager 20 000 hommes dans un délai de 30 jours. Pour le général Schill...
La dissuasion nucléaire sanctuarise ses intérêts vitaux.
La France s'appuie également sur des armées alliées, principalement européennes. Mais depuis le début du conflit, plusieurs experts pointent le niveau d'équipement de l'armée française qui, selon eux, ne permettrait pas à l'armée de terre française de tenir plusieurs mois en cas de combat sur le front ukrainien.
Et nous sommes donc avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Merci général d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir pour ouvrir le débat. Vous avez lu, je suppose, cette tribune de Pierre Schill. Première réaction, est-ce que vous partagez le même avis?
Écoutez, je suis très heureux que vous me donniez d'abord, vous m'invitiez, mais, et en particulier de commenter cette tribune du chef d'état-major de l'armée de terre, du général Schill, qui est un militaire que j'apprécie tout particulièrement. Et ce n'est pas d'hier. Il parle juste, il parle vrai. Il n'est pas sans connaître les difficultés que rencontrent nos armées face aux enjeux. Il les rappelle d'ailleurs. Il rappelle qu'on est dans des rapports de puissance. Il rappelle aussi qu'on n'est pas seul. Il rappelle que la France, à bien des égards, est une puissance exemplaire en termes militaires, même si elle n'a pas tous les atouts et tous les outils qu'il lui faudrait pour mener une guerre de haute intensité. Ça, il l'aborde vraiment avec pudeur. Et un point aussi extrêmement important, il montre bien la complémentarité entre la dissuasion nucléaire et les forces conventionnelles qui épaulent en quelque sorte cette dissuasion et qui font monter d'un degré, si vous voulez, la possibilité, la perspective d'emploi de la dissuasion, parce que plus on est dissuasif au plan conventionnel et plus on repousse cette échéance. Dernier élément, il est en train d'entreprendre, et ça transparaît dans sa tribune, une transformation courageuse et, à mon avis, extrêmement exemplaire de l'armée de terre, concentrée sur l'efficacité opérationnelle d'un côté, les hommes et les femmes qui servent cette armée, qui est une armée d'excellence, même si elle n'a pas tous les atouts. On sait, on connaît les effets des dividendes de la guerre, mais ce n'est pas comme ça qu'on mènera les hommes au combat si c'est nécessaire et quand ce sera nécessaire.
Général, voilà, on a évoqué ce sujet avec Pierre Lelouch qui est avec moi ce soir. L'armée française, donc, a priori, se tient prête. Mais est-ce qu'on est en mesure, honnêtement, d'intervenir, vu l'état de notre armée?
On le sait que quand on est confronté aux réalités, mais ça serait pas, ça dépend. Vous savez, on peut pas faire quand on est chef militaire. On est obligé de rentrer dans le cœur de la stratégie et dans la réalité des capacités qui la sous-tendent. Parler des militaires, parler d'engagement, si on n'a pas une vision stratégique des choses et si on n'a pas une idée très claire des capacités dont nous disposons, c'est-à-dire capacités, c'est des hommes, c'est des équipements de bonne facture. Et c'est le nombre derrière. Et ça, évidemment, le volume, et ça apparaît aussi dans la tribune du général Chir, bien sûr qu'on ne va pas reconstituer des volumes, et d'autant plus qu'on a du mal un peu à recruter, à fidéliser. C'est un de ces grands enjeux. Donc, l'armée française, j'ai du mal, très honnêtement, et j'ai toujours été honnête avec vous, à imaginer qu'elle entrerait comme ça, toute seule. C'est un ensemble, si vous voulez. Vous imaginez un pays de l'OTAN qui irait de lui-même, tout seul, faire face à la Russie en Ukraine. C'est possible, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure solution pour vraiment garantir à l'Ukraine sa souveraineté, d'autant plus qu'avant ça, on a beaucoup à faire, parce qu'on n'est pas au rendez-vous, c'est un rendez-vous stratégique, c'est un rendez-vous crucial de soutien que nous devons à l'Ukraine, nous nous y sommes engagés en termes d'armes, en termes d'équipements solaires pour protéger les populations et les forces ukrainiennes. Et c'est ça la clé maintenant. On peut regarder à un an, à deux ans, à cinq ans, à dix ans. C'est dans les quelques mois qui viennent que se joue le sort de l'Ukraine. Il ne faut pas en douter.
Pierre Lelouch, vous avez une vision très, très précise justement. Hein, en cas d'intervention, l'armée française ne tiendrait pas très longtemps. C'est ce que vous en évoquez sur ce plateau. Hein.
D'abord, je voudrais saluer le général Paloméros. Deuxièmement, je voudrais dire avec lui que le général Schill et l'ensemble de nos soldats sont de toute première qualité. Moi, je les ai vus au fil de mes missions, de mes fonctions. J'ai été en charge, par exemple, de l'Afghanistan pendant un an. J'ai été au contact de nos soldats au Mali. J'ai vu le professionnalisme, le courage, le dévouement de nos soldats. Je crois qu'on peut tous en être fiers. Le problème, ce n'est pas la qualité des hommes. Le problème, c'est que après la fin de la guerre froide, il y a 30 ans, on a changé le modèle d'armée. Il y a eu un moment, et Paloméros s'en souvient, où nous avions une première armée en Europe. Il y avait des centaines de milliers d'hommes, hein, attention, avec un corps de manœuvre, appelé le corps de manœuvre, qui était chargé de participer à la bataille de l'Avant en Allemagne, de stopper les soviétiques en Allemagne et au besoin passer aux armes nucléaires tactiques. C'était notre doctrine à l'époque de la guerre froide, avec un service militaire et des forces de manœuvre considérables. Plusieurs centaines de chars, d'avions, etc. Il y a eu la fin de la guerre froide, la guerre du Golfe. On a changé de modèle d'armée. On a fait une armée d'intervention très efficace, avec des forces de projection spécialisées, des forces spéciales, des gens très talentueux, qui se battent très bien, qui sont reconnus comme tels. Simplement, c'est une armée bonsaï. C'est une armée réduite. Il nous reste 200 chars, pas beaucoup plus d'avions de combat efficaces. On est tombé à 15 frégates. Donc on n'est pas dans un modèle d'armée de guerre à haute intensité dans le temps. Tenez, c'est important ce que je suis en train de dire, parce que la guerre en Ukraine, elle a commencé il y a 10 ans. Les Ukrainiens, aujourd'hui, ils alignent 1 million d'hommes, avec tout compris, et ils n'en ont pas assez, parce qu'ils ont eu énormément de pertes. Les Russes ont commencé avec 200 000 hommes, ils en ont rajouté 300 000, donc on a affaire à des contingents qui se chiffrent en centaines de milliers de soldats, sur une ligne de front de 1000 kilomètres. Et là, que nous dit le général commandant de l'armée de terre française? Il dit, moi, je peux faire en un mois, je peux envoyer 20 000 hommes, mais j'ai besoin du concours d'autres divisions alliées. C'est ce que dit aussi le général Paloméros. Donc, on est dans cette configuration-là. Le président a annoncé un objectif stratégique que, pour ma part, je considère un peu rapide. Mais les militaires font leur job. Le chef d'état-major dit on y travaille, on sera prêt. Mais voilà ce qu'on peut faire.
Pierre, je voudrais, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission.
Ce qu'on appelle un contrat d'objectif.
Un dernier mot général sur ce que vient de dire Pierre Lelouch, très rapidement.
Bon ben, je connais l'engagement de Pierre Lelouch pour soutenir notre défense. On s'est croisés à de multiples reprises et j'aurais espéré qu'ils soient plus nombreux à nous soutenir dans ces moments difficiles que nous avons connus. En voyant nos armées se rétrécir, moi je suis entré dans l'armée de l'air, il y avait 500 avions de combat, en ce moment il y en a moins, à peine 200. Voilà. C'est des excellents avions hein, par ailleurs, mais la qualité ne peut pas en elle-même
et mon général, contrebalancer le des nuits dans l'hémicycle que je passais, pour le budget de la défense, il n'y avait personne, personne, ni les députés, ni les journalistes. Tout le monde s'en foutait et le budget a plongé et on a récupéré comme ça en 30 ans, quelque chose comme 800 milliards d'euros qu'on a distribués à autre chose.
Général,
la défense.
Général Jean-Paul Paloméros, merci d'avoir été notre invité. Merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on termine notre émission par une dernière séquence avec Emmanuel Macron, toujours à Marseille, qui a été interpellé. Non, parce que vous allez voir.
On a parlé d'Internet et de la Jeanne Vallaud-Belkacem.
Voilà, non, on n'aura pas le temps. Je voulais le faire, mais on n'aura pas le temps. Mais écoutez, regardez Emmanuel Macron qui a été interpellé cette fois sur. Sur Gaza, ça c'est un peu ce qu'on appelle le risque du métier quand on déambule, parfois.
C'est un petit peu dommage que vous agissiez pas plus concrètement.
Mais monsieur, on agit
comme le font certains autres pays.
Mais qui
Écoutez, du moins au moins l'Afrique du Sud, qui a renvoyé, l'ambassadeur.
Est-ce que vous pensez que c'est un acte qui aide les gens?
Bien sûr, pas du tout.
La France n'est pas sur la ligne et n'aura pas la ligne de l'Afrique du Sud, parce que les termes qui ont été employés, les actions de justice internationale, ne correspondent pas non plus à la vérité sur le terrain.
Donc vous préférez laisser faire des massacres?
Non, on fait tout pour lutter de manière concrète, mais après, pardon de vous le dire, mais nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont ceux de la diplomatie, de l'action humanitaire, et je ne peux pas vous laisser dire que l'action qui est faite par nos humanitaires, par notre armée, et tout ce qui a été fait par la France,
c'est respectable.
On a une position claire.
Écoutez, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Non, non, excusez-moi, laissez-moi au moins terminer. Parce que si vous. Ça s'appelle la courtoisie, du moins.
J'ai été très courtois. Peut-être même plus que vous.
Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. J'ai été content quand même. Mais je vous appelle. Je dirai. Plus me répondre, monsieur le président.
Mais non, mais on ne va pas faire une conférence, vous n'êtes pas d'accord, vous véhiculez parfois des trucs un peu.
Écoutez, c'est ce qui peut faire déborder aujourd'hui les cités, monsieur le président. Malheureusement, vous ne faites rien à ce sujet.
Mais je ne peux pas vous laisser dire
que si, monsieur le président.
Non.
Ah, si.
Alors après, si vous avez. Ce qui fait déborder les cités, vous savez, tous les gens qui viennent nous sortir les enfants de l'école pour les amener vers les fanatiques.
Ça, c'est une chose.
C'est tous les gens qui empêchent les écoles et les familles de vivre, mais c'est la drogue. C'est ce qu'on fait.
Cet élément-là, le fait de ne pas pénaliser Israël au niveau économique, peut faire déborder les choses.
Et les réactions, Reda, Michael, très rapidement, sur cette petite scène.
Juste sur le sujet, alors pour le, c'est plus politique, mais juste sur le, par rapport à ce qu'a dit ce jeune homme, c'est possible de faire déborder les cités par rapport à ça. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le 18e arrondissement, la Goutte d'Or, les violences urbaines qu'il y a eu en pleine journée par rapport à la Palestine. Donc l'expression de colère, des fois, dans les quartiers, quand vous ressentez les choses par rapport à la tragédie aussi de la Palestine, oui, des fois le fait qu'ils se reconnaissent dans ça, ils peuvent aussi, comme ils ont attaqué des commissariats, ça peut aussi faire soulever les cités.
Non, enfin, c'est très drôle parce qu'ils se reconnaissent dans ça, mais ils ne se reconnaissent pas dans le Yémen, ils se reconnaissent pas dans les Ouïghours. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que la focalisation particulière qu'il y a vis-à-vis de l'État d'Israël, parce que c'est l'État juif, n'est pas le signe d'un nouvel antisémitisme. Et quand je vois Emmanuel Macron qui va faire un beau discours devant le CRIF en expliquant que l'antisémitisme aujourd'hui c'est Charles Maurras. Ben non, en fait.
On l'a évoqué hier soir.
L'antisémitisme aujourd'hui, c'est les personnes à qui il fait face à Marseille et qui ont une focalisation toute particulière vis-à-vis de l'État d'Israël, pour ne pas dire vis-à-vis de l'État juif. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on ait un très grand courage quand il s'agit d'insulter le Rassemblement National, soit 40% de l'électorat, et qu'on n'en ait plus beaucoup. Quand on est face à une population qui peut-être a réellement un problème avec les Juifs. Mais moi, désolé de vous dire que je me permets quand même de le noter.
Elliot.
Il me semble au contraire.
Donne la parole, parce qu'il n'y a pas beaucoup parlé, Elliot.
D'ailleurs, Emmanuel Macron a entretenu une distance assez regrettable avec Israël depuis les événements du 7 octobre. Je rappelle par exemple que fin novembre, il ne s'est pas rendu à la manifestation contre l'antisémitisme.
Justement pour ça.
Précisément parce qu'il ne souhaitait pas enflammer la situation dans les banlieues. Je rappelle qu'à l'international, en novembre, trois semaines après les attentats du 7 octobre, il avait donné un entretien à la BBC où il avait appelé à un cessez-le-feu unilatéral sans même rappeler les événements du 7 octobre. À l'ONU, la représentation française aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, a voté à au moins deux reprises des demandes de cessez-le-feu, des résolutions qui demandaient des cessez-le-feu que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient contesté précisément parce qu'elle ne rappelait pas le 7 octobre. Emmanuel Macron a donc au contraire pris précisément en compte la composition démographique particulière de la France.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, mon cher Elliot, parce que c'est le moment de la revue de presse de vos unes de demain qu'on va découvrir. On va commencer par le Figaro. À la une aux européennes, la poussée des droites souverainistes. On va voir la une des Échos, Athos, la descente aux enfers. Ensuite,
vous, Thierry Breton.
Aujourd'hui, les commerçants excédés, ils affichent leurs voleurs. Et puis Mbappé, Deschamps, les JO, Thierry Henry face à nos lecteurs. Nice matin, chauffeur de bus sous surveillance. Et puis on va terminer par nos confrères de Ouest France, les collèges et lycées qui réussissent le mieux. Voilà, c'est ainsi que se termine Soir Info. Merci de votre fidélité. Merci, mes amis, de nous avoir accompagnés. Passez une très belle soirée. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est le journal de la nuit. Et le journal de la nuit vous est présenté par Mathieu Devez. Moi, je vous dis bye bye, belle soirée, belle nuit. On se retrouve demain, même jour. Non, pas même jour, évidemment, mais même heure. Surtout. Parce que là, on va peut-être se coucher. Là. On va peut-être aller se coucher. Demain soir à 22h30, évidemment. Belle soirée. Bye bye.
Bonsoir.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.